Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, un troisième entretien avec Clotilde Margotin. Bonjour Clotilde.
Bonjour Nathalie.
Alors auteur, alors tout d'abord vous êtes journaliste, hein, aussi vous avez une expérience aussi de télévision avec une chaîne catholique que nous connaissons bien, c'était vos premiers pas.
Exactement.
Aujourd'hui vous êtes chroniqueuse sur une des stations de la chaîne RCF.
Exactement.
Vous êtes mère de famille, mère de cinq enfants, vous êtes aussi accompagnatrice pour ces sorties de crise et vous avez connu et vous décrivez dans cet ouvrage, 13 ans après, important de le préciser, cette période que vous avez vécue, qui aura été une période de 5 ans, je crois.
C'est ça.
D'une dépression sévère, dont vous avez décrit un peu les signes, les symptômes depuis le début de l'émission. Dans cet ouvrage, alors page 110, je me suis vraiment imprégnée de votre histoire. Votre médecin traitant, vous écrivez, il vous dit: vous êtes venue seule, enfin, ça fait 2 ans que je vous attends. Alors c'est votre médecin traitant de famille. Ce médecin, en fait, il n'attendait pas les enfants, il n'attendait pas la mère de famille, il vous attendait vous. Vous vous rappelez de ce moment où vous avez franchi cette porte du cabinet et où il vous dit, mais vous avez... il vous aura fallu beaucoup de temps, madame.
Eh oui, rien que de vous entendre.
Qu'est-ce qui explique que vous avez mis autant de temps?
Rien que de vous entendre dire, ça fait 2 ans que je vous attends. J'en ai encore des frissons. Je revois ce moment, je revois ce médecin. Qu'est-ce qui fait qu'on met 2 ans à s'occuper de soi quand on va pas bien? La première chose, c'est qu'on ne voit pas qu'on va pas bien. C'est insinueux, c'est lent, c'est des toutes petites choses au jour le jour qui s'accumulent. On est un peu fatigué le matin, on manque de courage pour telle ou telle chose. Avant, on faisait des sorties avec les enfants, là, on n'en a plus vraiment le courage. Avant, on supportait le bruit, petit à petit, on le supporte plus. Avant, on n'était pas gêné par les sollicitations des enfants, petit à petit, on le devient. On est triste un jour, 2 jours, puis tous les jours, plusieurs fois par jour. Toute cette mauvaise santé psychique s'installe à notre insu, sans trop qu'on voit au jour le jour ce qui se passe. On a des sollicitations, elles commencent à nous peser. On se sent fatigué continuellement. Il y a vraiment toute cette installation de la fatigue
d'une routine
physique,
aussi, hein,
d'une routine.
D'une mère comme vous, mère de famille nombreuse.
Oui, hein, mais la routine, alors j'ai un tout petit bémol pour
oui,
la routine,
oui.
C'est que la routine peut être aussi très forte pour la reconstruction. Donc pour moi, elle est très positive, la routine. Il y a quelque chose de très qui assied beaucoup le jour, qui rassure, qui permet de consolider les bases.
Qui donne un rythme.
Par contre, la routine qui devient l'ennui, la perte de l'estime de soi, la perte du goût de vivre,
l'épuisement, l'essoufflement aussi.
Voilà, celle-ci, elle est dangereuse. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se découvre malade. On ne se voit pas tomber malade. Et ça, c'est ce qui explique que le médecin me dise, ça fait 2 ans que je vous attends. C'est qu'un médecin et moi-même, aujourd'hui, en tant qu'accompagnatrice, à la façon dont une personne va se tenir, à la façon dont la couleur autour des yeux va être plus ou moins jaune, à la façon dont une personne va se positionner par rapport aux événements extérieurs, par rapport aux sollicitations, je vais avoir des signaux qui vont m'alerter. Un médecin est habitué à déceler ça. Donc lui, il le savait. Ça faisait 2 ans que régulièrement, avec 4 enfants en bas âge, j'allais chez lui, mais 2-3 fois par semaine. On est dans une région, donc en Haute-Savoie, où les hivers sont rudes. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants aussi qui ont parfois des soucis de bronchiolite.
Au fond, une mère de famille ne s'écoute pas vraiment. La priorité est donnée aux enfants.
Oui, je pense que c'est un tort. Je pense qu'il faut que la mère de famille reste vigilante.
Est-ce qu'on peut parler aussi de... on parle de honte, vous avez parlé de honte avec cette maladie. Est-ce qu'on peut parler peut-être de déni dans cette période aussi où la vie continue, il faut vivre le quotidien, on ne va pas bien, c'était votre cas, la tristesse s'installe, la fatigue, l'épuisement, ce bruit, vous le décrivez très 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 bien hein, dans cet ouvrage, se relever toujours, mais qu'est-ce qui fait que ce jour-là, vous avez franchi finalement la porte du cabinet médical de votre médecin?
Ouais,
qu'est-ce qui a fait déborder un petit peu?
Bien sûr, je reviens sur ce terme de déni. Pour moi, le déni se serait installé si, une fois le diagnostic posé, j'avais refusé de traiter la maladie. Là, j'aurais été dans le déni. Dans les 2 ans qui ont précédé, non, ce n'était pas du déni, c'était je ne connaissais pas, je ne savais pas, je ne pouvais pas nommer.
L'entourage, votre époux
Je crois que l'entourage est comme moi, il n'a pas vu, il n'a pas su, on ne connaît pas.
Les amis les plus proches?
Non, ils y ont vu de la fatigue normale, d'une mère de famille normale, peut-être un laisser-aller de « tu t'écoutes trop aussi ». Voilà, je ne crois pas qu'on puisse inculper quoi que autour des proches en disant « vous n'avez pas vu ». En fait, je crois qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que ce livre est important. Après, quand j'ai passé la porte de ce médecin et qu'il m'a dit « ça fait 2 ans que je vous attends », pour répondre honnêtement à votre question, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai décidé de passer la porte de ce médecin. La première, c'est que j'ai eu peur d'avoir envie de mettre fin à mes jours. J'ai eu terriblement peur de ça, parce que j'ai une foi ancrée, parce que j'aime la vie, et parce que je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe pour que tu en arrives là ?» Et la deuxième, c'est que j'aime profondément mon mari, on est mariés maintenant depuis 19 ans, on est passé par des tempêtes, et il y a bien, juste après, je le raconte dans le livre, après cette attirance suicidaire, il y a un week-end qu'on a passé ensemble avec les enfants, on s'est retrouvés après des vacances, et je me suis rendu compte que mon mariage était en danger. Et là, j'ai décidé d'aller voir le médecin seule. Non pas que je refusais de le faire avant, mais plutôt que j'essayais d'appeler à l'aide.
Vous le décrivez dans votre ouvrage, vous parlez de danger pour votre famille, vous parlez de danger aussi pour votre vie de couple, mais vous-même, vous étiez vous-même en grand danger.
J'étais en grand danger.
Est-ce que vous aviez, à cette période-là, conscience que vous étiez quand même devant un précipice, hein, où à tout moment vous pouviez mettre terme? Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, on peut peut-être le dire ici dans ce troisième entretien, il y a une date qui est, je dirais, bien inscrite. C'est autour de cette date du 15 août où vous avez véritablement l'idée du suicide.
Oui, j'ai l'idée du suicide un 15 août et je le dis dans ce livre, moi qui suis profondément croyante, issue de climat de famille très catholique, ça ne se fait pas d'aller mal un 15 août, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que on est croyant, on a l'espérance, on a la foi, on n'a pas le droit. Et j'aimerais dire que on peut traverser une détresse spirituelle tout en gardant la foi. Et ça a été mon cas, je n'ai jamais perdu la foi. Je m'appuie sur cette foi avec... j'ai la chance d'avoir cette foi ancrée au fond de moi et je m'appuie dessus et les échanges... On dit que la foi c'est discuter avec Dieu, je lui parle de tout, je lui parle de ma détresse, de ma tristesse, de ma colère, comme je lui parle de mes actions de grâce. Je crois que cette intimité elle est mêlée de choses positives et négatives. Finalement, nous sommes faits de chair avec nos faiblesses, nos blessures, et je crois que le bon Dieu s'intéresse à nos blessures.
Alors, permettez-moi de vous parler de colère aussi, et c'est bien inscrit aussi dans l'écriture de votre ouvrage. Ces moments de colère, ils sont multiples.
Ils ont été comme ça. Il se trouve qu'il y a une quinzaine de pages qui a été écrite juste après ma guérison, et je crois que ce sont les pages où il y a encore le plus de colère. Je crois aussi que c'est grâce à ça, et le temps fait bien son œuvre. Vous voyez, l'essentiel du livre a été écrit il y a 2, 3, 4 ans, et je crois que j'avais déjà un peu plus de recul. Mais j'ai beaucoup de compassion pour cette jeune femme que je décris et qui a été, moi, il y a 13 ans, qui voyait bien que ça n'allait pas, qui essayait par tous les moyens de s'en sortir et qui n'avait d'autre outil que la colère à exprimer au bon Dieu pour lui dire « mais si tu m'aimes, je t'en supplie, sors-moi de là ».
C'est pas la même femme que je rencontre. J'ai lu votre livre dans le train. Oui, dans un train, je vous reçois aujourd'hui. 13 ans après, il y a un avant et un après. Aujourd'hui, oui. Est-ce que vous pouvez dire que la femme que vous êtes aujourd'hui est en paix avec elle-même, sereine et au fond heureuse, hein, malgré aussi les périodes que nous traversons, périodes quand même de crise, hein, oui, que nous connaissons?
Ce que je peux dire, c'est que la femme que vous avez aujourd'hui devant vous est une femme bien debout. face à la lumière.
Qui n'est plus en colère.
Et
qui n'a plus la même colère.
Non, je n'ai plus la même colère. Je crois que j'ai appris à déposer ma colère dans le cœur de Dieu pour me permettre d'avancer. Lorsque j'ai des colères, je les lui dépose et en fait, il les transforme en grâce. Alors forcément, ça a une action bien plus efficace que de celle de continuer à crier, à hurler. Mais je ne regrette pas d'avoir exprimé cette colère. Je repense au Christ lui-même dans le cachot de Pilate, hein, qui a ressenti une profonde détresse au fond de lui. Et j'ai eu la chance d'aller sur les lieux en Terre Sainte et je peux dire que j'ai été rejointe par ce Christ souffrant. Donc, je ne regrette rien. Je rends grâce que cette colère ne se soit pas retournée contre moi et fasse un désastre, et fasse tant de peine à ceux qui m'aiment. Aujourd'hui, oui, je suis sans doute une femme nouvelle. On dit qu'il faut 7 ans pour régénérer toutes les cellules de notre corps. Donc, c'est sûr que celle que je suis devant vous n'est plus celle d'il y a 13 ans.
Alors, vous auriez pu écrire presque ce livre à 4 mains avec votre époux?
Oui, on y a même pensé d'ailleurs un moment, écrire tous les deux, et puis on avait quand même beaucoup de mal. Il se trouve ça nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose. On a vécu cette épreuve côte à côte, mais en fait on a été très seuls l'un et l'autre, parce qu'on n'avait pas du tout la même épreuve à vivre. Moi,
vous aviez des épreuves aussi mutuelles, la perte aussi de votre beau-père,
oui.
La perte de votre papa. Vous avez commencé vos débuts de vie commune avec de vraies épreuves de la vie que tout un chacun peut traverser.
Oui, des épreuves de la vie. Mon père spirituel m'avait dit, tu vis tout ça avec presque 10 ans d'avance. C'est étonnant, tu vis ça à 30 ans, il y en a qui le vivent à 40. C'est sûr qu'on n'a pas été épargnés dès le début. On a eu des épreuves et des événements extérieurs communs. On n'a pas ni la même sensibilité, ni la même... Et puis finalement, c'est quand même moi qui ai accouché à la première. Voilà, donc on n'a pas vécu non plus tout de la même façon. Mais surtout, on a vécu cette épreuve. Moi, j'étais malade et mon mari n'était pas malade. Il était le bien portant à côté de celle qui est malade. Mais nous avons beaucoup travaillé ce livre ensemble. Mon mari a tout relu. On a travaillé ce livre
Votre
ensemble.
Votre mari, vous le nommez, c'est François-Xavier, on peut le saluer aussi très fort car il est très présent aussi dans cet ouvrage.
Je n'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui sans la présence de mon mari, sans son accompagnement, son amour indéfectible. Oui, je lui dois beaucoup.
Et on le salue. Clotilde Margontin, auteur de ce livre paru récemment aux éditions Artege, se relevait toujours. Je vous propose donc de revenir demain dans ces mêmes studios à la même place. Nous ouvrirons un angle bien particulier que je vous propose, vous y réfléchissez, vous en parlez dans votre livre, c'est ce moment où, personnellement, vous prenez la décision de vous faire hospitaliser. C'est une décision aussi qui ne tient qu'à vous. À demain à la même heure.
À demain, merci Nathalie.